y a chez les hommes quelque chose qui profondément les pousse à aller plus loin, plus haut, plus vite. Et c'est incontestablement le moteur du progrès. C'est très important.
Au grand jour, nous apparaissons, et vive la révolution.
Et ce n'est pas un psychiatre de dire si on est un homme ou une femme ou entre les deux.
C'est assez, la paix sociale est terminée.
Langue de fronde. Une émission féministe, meuf, gouine, trans.
Langue de fronde.
Soy mujer, soy en sí, soy quien soy, aquí estoy. Alístense grafiteros en sí, DJ B-Boy, que hoy verán como hip hop el que hacer una mujer dura. Pues tengo estilo, flow, talento y lírica cruda. La mujer es destreza, valentía y rudeza. ¿Quién dijo que la mujer?
Bonsoir tout le monde. Vous êtes bien avec les langues de fronde sur 106.3 FM sur Fréquence Paris Pluriel. Alors pour l'émission de ce soir, on vous prépare une émission sur le blues et plus particulièrement autour du livre d'Angela Davis qui a été traduit donc pour la première fois en France en 2017 qui s'appelle Blues et féminisme noir.
Mais qui date de 98, donc voilà, un petit bout de temps.
C'est ça, on a mis quelques années avant de s'y attaquer à la traduction. Et donc il est paru l'année dernière aux éditions Libertalia et on avait envie de faire cette émission autour du blues depuis un petit moment, et on s'est dit, bon, on va faire une émission en deux parties. Donc cette première partie au mois de mars sera essentiellement consacrée aux premières parties du livre.
C'est donc, des premières parties de premières parties.
C'est ça.
De premières parties.
on a fait ce qu'on appelle un arpentage avec les langues de fronde. Un arpentage, c'est quoi? C'est en gros, on prend un livre et on le déchire, en l'occurrence ici.
Un livre qu'on a envie de lire, pourtant.
Tout à fait. Et on le déchire en plusieurs parties. Chacune d'entre nous a lu ici un chapitre et après on a raconté aux autres ce qu'on avait retenu du chapitre et ça permet de s'approprier le contenu d'un livre sans forcément lire les 400 pages toute seule dans son coin. Et donc on s'est vu plusieurs fois pour parler de tout ça et dans cette émission on va vous parler donc d'essentiellement deux artistes, Gertrude Marinet et Bessie Smith. Et la partie plutôt sur Billie Holiday dont parle Angela Davis à la fin de son livre, ce sera plutôt pour le mois d'avril. Pour l'introduction de cette émission, on voulait aussi vous passer une première musique de Ma Wene qui s'appelle Clarisse.
Yonder Comes the Blues.
Voilà, belle écoute.
I worry all night. Every time my man comes home, he wants to fuss and fight. When I pick up the paper to read the news, just when I'm satisfied, yonder comes the blues. Never worry, things go on all right.
Vous êtes toujours sur Langue de Fronde avec l'émission Blues et Féminisme Noir du livre d'Angela Davis. Vous venez d'écouter la chanson de Ma Wene, Yonder Comes the Blues.
Et pourquoi tu l'as choisie, Léa, pour introduire cette émission ?
Alors, j'ai choisi cette musique parce que dans cette chanson, en fait, Ma Wene, elle s'adresse directement au blues, comme si c'était une personne à part entière. Et elle dit, voilà, j'ai marché, entouré mes chaussures, je ne peux pas aller plus loin, le blues vient de là. Elle parle de certaines personnes qui s'en font jamais, les choses tournent bien pour elle, et alors que elle, tout le temps, quoi qu'elle fasse, le blues revient. Et dans cette chanson, elle personnifie donc le blues, et on a l'impression que c'est une sorte d'entité qui la hante constamment, jusqu'à l'assiéger complètement à la fin de la chanson. Et ce que dit Angela Davis à propos de cette chanson, je trouvais ça assez intéressant, c'est qu'elle parle de l'omniprésence du blues qui symbolise dans cette chanson les fondements, les forces sociales obscures, mystifiantes, envahissantes et insurmontables qui ont créé un contexte de misère et d'oppression. Et quand elle s'adresse, Ma Wene, dans la chanson, au troisième couplet, à certaines personnes que le blues ne tourmente jamais, ça peut être une adresse qui peut être comprise comme une allusion aux blancs, aux riches en général et même aux hommes noirs. Et qu'en fait, là, on voit dans cette chanson que le blues a des origines sociales et qui décrivent en fait les conditions d'oppression que subissent la communauté noire américaine. Et c'est fréquent, en fait, dans tout le livre, on voit qu'il y a souvent des adresses comme ça au blues, comme si c'était une personne à part entière, quoi.
Mais parce que d'ailleurs, si ça s'appelle blues, tout simplement, c'est aussi parce que ça vient de cette couleur bleue, donc les blue notes. Pour l'anglais, Po, tu peux me reprendre peut-être, ou Léa. Hein, mais...
Non,
et c'est blue notes qui caractérise un peu le blues. C'est une forme de gamme un peu spéciale qui quand même donne, en fait, la couleur est très en lien avec un sens derrière de que racontent ces notes. Mais c'est des notes infléchies. C'est des notes... Bon, alors les termes techniques, c'est que c'est une tierce et une septième mineure, mais en fait... C'est le principe d'une équivoque entre une tonalité mineure et une tonalité majeure, et quelque chose qui est un peu à cheval entre deux choses. Et c'est ces notes altérées qui donnent un côté, certains disent poignant, mais un côté en tout cas parfois triste, parfois ces fameuses blue notes. Et ces notes, par exemple, si on prend la gamme de Do, je me tente.
Essaye, je me lance.
Mais c'est Do, Mi, Fa, Fa, Sol, Si, Do, Do, Si, La, 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 La. Des notes un peu, ça vaut ce que ça vaut, mais un peu plus tristes que ce qu'on appelle le majeur, qui est plus cash, quoi, mais en même temps entre deux, qui prend un peu aux deux. Et avec des grilles qui reviennent à chaque fois. Et donc pourquoi ces fameuses notes bleues donne socialement ce qu'est le blues aujourd'hui et surtout ce qu'il a été, parce que d'ailleurs le titre original, alors tu peux pas le prononcer toi, Léa,
Blues Legacies,
parce que donc c'est donc l'héritage, et c'est vraiment un ancrage dans l'histoire, enfin c'est vraiment une vision du blues aussi historique. Qu'est-ce que historiquement cette forme de musique signifie, vers quoi ça qu'est-ce que ça dit aujourd'hui? Et effectivement, ces notes bleues, ça traite sous plein de formes différentes, mais de façon très pragmatique, de souffrances sociales et psychiques vécues par les Africains américains. Et donc, nommer simplement les sujets qui menacent le bien-être psychique ou psychologique et physique, c'est vraiment une fonction centrale du blues. Mm-hmm. C'est-à-dire le lien entre cette équivoque entre mineur, majeur, différentes tonalités, et dans ce que ça dit, une souffrance énorme qui est donc fin 19e, début 20e siècle, la musique, ou le chant d'ailleurs, parce que c'est vraiment lié à un chant ou à une chanson, le chant du désespoir et de la situation des esclaves noirs aux États-Unis.
Et ce qu'elle raconte aussi dans son livre, Angela Davis, c'est que en fait, l'origine du mot blues, il viendrait du 18e siècle et d'une origine anglaise qui s'appelait Blue Devils, donc les démons bleus. Et en fait, dans cette formule, ça décrivait seulement un état psychologique de dépression. Et en fait, dans le sens qu'en a fait ensuite la communauté donc noire américaine, c'est un sens qui devient beaucoup plus mélangé en termes de subjectivité et d'objectivité. C'est vraiment un mélange entre un état psychologique dépressif et subjectif et un état d'oppression sociale et construit, quoi. Et du coup, ça prend un sens nouveau à cette époque, tu décris fin 19e, début 20e, quoi.
Et dans tout ça, donc dans ce blues, ce que raconte Angela Davis, c'est essentiellement le parcours, ou le, en tout cas le parcours et musical et le parcours de vie, le chemin de trois artistes donc, que tu as nommés tout à l'heure, Léa, Ma Rainey, Bessie Smith et Billie Holiday, dont cette dernière dont on parlera moins, même si c'est au départ à partir d'elle quand même qu'on a voulu faire cette émission. Mais elle analyse donc l'œuvre de ces trois artistes qui ont joué des rôles décisifs, je la cite, dans l'élaboration de la culture musicale populaire des États-Unis. Et là, c'est plutôt les années 20, 30, 40, avec de l'une à l'autre des générations un peu différentes. La première étant Ma Rainey, donc la mère du blues. Et cet apogée au début du XXe siècle, à ce moment-là, il y a vraiment des centaines de femmes qui chantent le blues. Et c'est un héritage culturel qu'on a aujourd'hui qui est important. Et même si à l'époque, ça a été considéré comme une dite basse culture, donc avec des thématiques abordées qui étaient discréditées, parce que, enfin, pas nobles. Et ces thématiques étaient notamment, c'est ce qui intéresse Angela Davis et nous aussi, hein, entre autres les questions de sexualité et de rapport au corps, mais aussi de rapport au déplacement, enfin le corps qui se déplace, puisque le voyage est un thème central aussi de ce livre. Et après, je ne sais pas, peut-être Léa, si on dit deux mots de plus sur ces trois femmes en particulier, enfin plutôt les deux premières, Ma Rainey et Bessie Smith.
En deux mots, oui, Ma Rainey, juste pour situer un peu dans le temps, elle est, donc c'est une des premières chanteuses de blues américaines qui est connue. Elle est née en 1886 et morte en 1939, donc elle est surnommée, comme tu l'as dit, la mère du blues. Et elle a une grande influence sur les chanteuses de blues comme Bessie Smith. Et Bessie Smith a chanté notamment avec William et Gertrude Rainey, qui étaient connus à l'époque sous le nom de Ma and Pa, Maman et Papa. Ils avaient un spectacle ambulant et Bessie Smith, elle a commencé à chanter avec elle et lui. Et donc Bessie Smith, elle est née à peu près en même temps, en 1894, et est morte en 1937. Et c'est une des chanteuses qui a fait peut-être le plus d'enregistrements à l'époque. Enfin, je crois qu'elle a enregistré, d'après mes sources qui sont Wikipédia, là tout de suite, 123 chansons à Columbia Records. Et donc elle a eu une carrière musicale assez forte. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le blues, ça a commencé par des enregistrements de meufs quoi, à l'époque. Mmh. Et voilà.
Effectivement, oui, c'est les femmes qui commencent le plus à inventer ce genre du blues. Mmh. Et peut-être aussi, une des hypothèses d'Angela Davis, c'est aussi qu'à ce moment-là, il était encore, un peu ce que je disais tout à l'heure, mais c'était pas un genre noble, c'était pas un genre totalement reconnu. Et une des autres choses dont elle parle, qui est assez intéressante, c'est qu'à ce moment-là, les femmes noires étaient majoritairement pauvres. L'abolition de l'esclavage date de seulement quelques dizaines d'années. Et elles n'ont pas, le statut économique, globalement, n'a pas énormément changé. Et que donc, elles n'ont pas accès à des maisons d'édition ou une possibilité de publier des textes véritablement, ce à quoi elles ont accès et qui est dans la pleine tradition de ce que faisaient en communauté donc les esclaves noirs quelques décennies avant, c'est l'oralité, c'est-à-dire des traditions aussi de chansons. Et elles étaient donc, pour certaines, en contact avec des maisons de disques parce que c'était plus accessible, économiquement parlant et puis matériellement parlant. Et dans les années 20, il se trouve que l'industrie du disque est justement en plein essor, et d'ailleurs va même exploiter pas mal de femmes puis d'hommes. Et puis après, ce que Angela Davis raconte autour de l'oralité, c'est aussi une forme de liberté vis-à-vis du texte. C'est-à-dire que les textes sont écrits soit par elles-mêmes, soit par des hommes, ou d'autres personnes en tout cas, mais que même quand c'est écrit, que ce soit par elles ou par d'autres, elles s'affranchissent une fois en train d'enregistrer de ces textes et qu'il y a une grande part d'improvisation qui est faite le jour du concert et le jour de l'enregistrement. Et c'est aussi donc toujours entre révision de texte ou lecture de texte et improvisation. Et ça, moi, je trouvais ça particulièrement intéressant. En plus, dans sa démarche à elle, qui a été beaucoup, donc énormément d'écouter les chansons et de retranscrire. Donc elle a retranscrit 250 chansons de ces deux premières, donc Ma Rainey et Bessie Smith, parce que Billie Holiday venant plus tard, c'était beaucoup plus simple d'avoir déjà accès à ces textes. Et que, enfin, pour moi, c'était aussi, en lisant, déjà une forme de liberté à ce moment-là de s'affranchir du texte et d'en refaire finalement toujours sa propre sauce, quoi, dans ce que, en plus, le contenu étant déjà affranchi, provoquant de nature, et puis en plus dans ce qu'elles en font, à la fois dans la façon de l'interpréter, dans l'intonation qu'elles y donnent, la façon de le chanter, et puis en plus dans le texte que finalement elles revisitent. Et puis, parce que, en fait, finalement, ce que tu dis pas, c'est qu'Angela Davis dit que finalement, elle ne comprend pas toutes les paroles et que elle, peut-être elle s'est trompée. Et donc, c'est finalement, c'est ce que tu dis, c'est comme un espèce de palimpseste, une réécriture toujours de.
Une réécriture permanente.
Permanente de ces chansons qui effectivement se transmettent de façon orale.
Et c'est Angela Davis qui arrive et qui essaie de tout réécrire, donc de donner une forme écrite. Puis après, effectivement, elle parle aussi du registre qu'elles utilisent, qui est donc le registre populaire noir des Africains-Américains, et donc avec une forme de langue, encore une fois, dénigrée, mais qu'elle se réapproprie à ce moment-là en faisant un chant comme elle le veut. Mais en tout cas, elle voit cette forme d'oralité comme une importance majeure, dans la mesure où c'est aussi la trace d'une culture africaine réadaptée par le blues. Et qu'elle finit son introduction à Angela Davis en disant bien que ces traditions féministes africaines-américaines, elles sont multiples et qu'elles ne sont pas juste écrites, et que ça, c'est une importance primordiale aussi dans une dynamique, une perspective de recherche et de qu'est-ce que c'est que d'écrire l'histoire, et puis dans ce qui s'est passé quand on a voulu aussi écrire l'histoire des femmes aujourd'hui, puis il y a des années déjà. C'est aussi... Et là, si je la cite, elle parle du génie avec lequel les anciens esclaves élaborèrent de nouvelles traditions qui contestaient leurs conditions passées tout en préservant les richesses culturelles datant de leur asservissement. Et elle cite aussi à ce moment-là le sociologue Stuart Hall sur la culture populaire noire qui parle des inflexions envers le vernaculaire et le local et de l'utilisation métaphorique permanente du vocabulaire musical dans la culture populaire noire. Et justement une utilisation du langage ou de la langue même qui fait apparaître à l'intérieur des modes mélangés de certaines cultures populaires dominantes les éléments d'un discours différent, d'autres formes de vie, d'autres traditions de représentation. Et c'est justement entre une langue parlée, une langue chantée, comment tout ça est remanié pour finalement dire autre chose qu'une vérité directe, de description directe de la réalité. Après, cette réalité-là, quand même, qui est derrière, si effectivement le blues, c'est le fait de chanter la souffrance de tout un peuple, c'est aussi ce qui intéresse Angela Davis là-dedans. C'est certes la figure de ces deux femmes qu'elle dit donc avoir choisies parce que précisément irrévérencieuses et touchantes à la fois, mais c'est comment les chansons et l'œuvre de ces femmes mettent en évidence les traditions méconnues d'une conscience féministe dans la classe laborieuse noire américaine. Après Angela Davis, on la connaît aussi. Bon, elle est connue sous plein de façons différentes, mais notamment dans les années 60 comme une communiste très marquée par une pensée marxiste et qui justement va finalement d'ailleurs adhérer à une sous-branche du Parti communiste qui est la Chelumba Club, donc la section Parti communiste réservée aux Noirs. Donc déjà. Elle adhère en 68, donc dès les années 60, elle retravaille la question du marxisme avec la question de qu'est-ce que c'est qu'être noire aux États-Unis, puis aussi qu'est-ce que c'est qu'être une femme. Et finalement, dans ce livre-là, ça rejoint à travers cette façon d'écouter très précisément la musique, tous ces courants-là qui font aussi sa vie assez individuelle précisément à cette femme-là. Et donc ce qui l'intéresse dans ces femmes, quand elle dit qu'elles sont irrévérencieuses et touchantes, c'est, outre la conscience féministe d'une classe laborieuse noire qui est en train d'émerger, quelques décennies après l'abolition de l'esclavage, mais c'est aussi, elle parle de brèches taillées dans le discours patriarcal. Et comment, en fait, il y a des manifestations quotidiennes de cette conscience de femme et cette conscience qu'elle appelle féministe. Et elle dit finalement, la question, ce n'est pas de savoir si ce qu'elle disait s'appelait ou non féministe, mais c'est bien ce que ces femmes noires de cette époque signalent et identifient comme étant des enjeux cruciaux du discours féministe encore actuel. Donc vers quoi elles font signe presque 100 ans plus tard. Et finalement, si ça nous parle autant et si nous, Langue de Fronde, on a encore envie de faire une émission dessus, c'est bien qu'il y a des choses qui nous semblent aussi bien sur ces questions de sexualité que sur ces questions de voyage. D'ailleurs, on a fait une émission il y a 2 mois sur le voyage. C'est que c'est toujours aussi parlant.
Et peut-être pour aborder un peu plus concrètement les thématiques, donc tu as évoqué la sexualité, le voyage. On parlera aussi plus tard aussi comment le blues forme une sorte de contestation, en tout cas d'émergence de contestation sociale. Dans un chapitre qui s'appelle donc Idéologie, sexualité et vie domestique, Ça, c'est le premier chapitre. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Pau et classe, que vous avez retenu de l'arpentage de ce petit chapitre?
Ouais, donc en fait, dans un premier temps, finalement, elle essaie de situer l'émergence de ce genre musical que vous avez quand même bien introduit là. Mais elle rappelle en fait comment et en fait contre quoi aussi le blues apparaît et de quoi il est l'héritier. Et en l'occurrence, elle parle de cette musique sacrée, les spirituals music, qu'on va d'ailleurs vous proposer d'entendre un tout petit peu pour vous situer musicalement à quoi, enfin, de quoi il s'agit. Donc on va écouter Sweet Chariot.
Qui était donc des musiques, à ce moment-là, chantées à l'église.
Oui. Merci, Claire.
Swing low, sweet chariot, coming for the academy.
Ça, c'était un morceau en fait de la musique spirituals dont Angela Davis parle et contre lequel finalement le blues se crée, le blues qui est du coup considéré comme une musique profane mais surtout comme une musique du diable. Je crois qu'on y reviendra, alors peut-être pas aujourd'hui mais la prochaine fois, sur finalement les thématiques qu'aborde le blues, à savoir la sexualité dont on a parlé, effectivement le rapport au voyage, et qui sont des thématiques en fait qui ont un lien avec l'expérience sociale, économique et sociale des Noirs américains à cette époque-là, qui en fait après la période esclavagiste vont avoir la possibilité de voyager et finalement vont aussi avoir la possibilité de choisir leur conjoint, leur conjointe, ce qui avant n'était pas possible. Et c'est la raison pour laquelle finalement ces thématiques sont particulièrement récurrentes dans le blues, puisque bon, finalement les possibilités, enfin les conditions économiques n'ont pas tellement changé pour les Noirs américains. Et finalement, le blues va être considéré, enfin, ou être un moyen de chanter une ode à la liberté par le voyage, par la sexualité. Et donc, évidemment, c'est pas très bien vu par l'Église, qui une concurrence, finalement, à ces chansons, mais aussi au fait que, quand même, Bessie Smith et Marenay, en fait, elles font sable comble. Et c'est les églises qui se vident, quand même. Et puis,
Je pense que là-dessus, moi, ce que je trouvais assez incroyable dans sa façon d'analyser les paradoxes, justement, à Angela Davis, c'est qu'elle dit donc qu'avant l'arrivée du blues, et en tout cas pendant la période d'esclavage, tout le monde chantait ensemble et ce n'était pas limité à l'église, c'est-à-dire que c'était un côté religieux, chant religieux, mais qui était aussi bien au chant, au foyer, un peu partout. Et que dans ce que tu viens de dire, effectivement, au bout d'un moment, quelques décennies après l'abolition de l'esclavage, le religieux et le sacré va dans l'église, dans le lieu de l'église, et ne sort plus de l'église, alors que le blues, lui, va dans les salles de concert et individualise en plus, personnalise certaines personnes. Mais alors, effectivement, c'est considéré comme la musique du diable, mais elle dit, mais en même temps, si l'église a autant décrié le blues, c'est qu'il restait encore quelque chose de l'ordre du sacré dans ce que ces femmes-là chantent, et que c'est précisément parce que ce sacré-là remplissait les salles, faisait salle comble, que l'église effectivement perdait ses clients, mais parce que justement il y avait encore quelque chose de l'ordre du religieux qui chantait une note qui parlait à toute la communauté.
Oui, quelque chose de l'ordre du soulagement effectivement dont elle parle bien. Voilà, bon, plus précisément dans ce chapitre-là, elle aborde les questions de Angela Davis, finalement elle s'intéresse au fait que les blueswomen finalement parlent assez peu du mariage comme une fin en soi, effectivement, ce qui était un peu le cas en fait des chansons populaires en fait blanches, où finalement on a des femmes qui s'épanouissent par le mariage, qui vont parler de leurs enfants, de leur désir de fonder un foyer. Là, on n'est pas du tout dans ce registre-là. On est plutôt en fait dans une espèce de critique de l'institution du mariage qui passe aussi la remise en question de l'exclusivité sexuelle. Donc avec des femmes qui vont dire que elles ont des amants, qu'elles ont une liberté sexuelle, une autonomie sexuelle, et ce qui est quand même assez ce qui est quand même fou pour l'époque, mais qui toujours se relie en fait à l'histoire sociale de ces femmes. Donc voilà, remise en question de l'exclusivité sexuelle. Aussi,
juste une petite phrase de Bessie Smith dans une de ses chansons, elle dit pas le temps de se marier, pas le temps de s'installer, je suis une jeune femme et je n'ai pas fini d'aller voir de droite à gauche. Et je rappelle que, je dis que Bessie Smith était bisexuelle et qu'elle en parle dans pas mal de ses textes aussi.
Ouais, et justement, en fait, la question de la sexualité, elle est présente. Et d'ailleurs, Ma Rainey aussi, elle est lesbienne ou bisexuelle, ça dépend des...
Selon ses airs.
Ça dépend, quoi. et elle va chanter notamment dans une de ses chansons qui s'appelle « Prove it on me », où elle parle justement de son homosexualité.
De son désir
sexuel. Alors, je vais demander en technique, je crois que c'est la troisième chanson et c'est parfait, on va l'écouter.
Comment elle s'appelle ?
Prove it on me.
When I last night had a great big fight, everything seemed to go wrong. I looked up. To my surprise, the girl I was with was gone. Why she went, I don't know. I mean to follow everywhere she goes. Folks said I'm crooked, I didn't know where she took it. I want the whole world to know. They say I do it. Ain't nobody caught me. You got to prove it on me. When I was last night with a crowd of my friends, been muffin' women, cause I don't like no men. It's true, I wear color and a tie. Make the wind blow all the while. Cause to say I do it, ain't nobody caught me. They sure got to prove it on me. Mm.
Voilà, donc c'était Prove It On Me de Marinée, qui effectivement affirme haut et fort qu'elle aime les femmes et pas du tout les hommes. Et donc, voilà, on imagine bien quelle contestation d'ordre social elle affirme haut et fort, quoi.
Avec sale comble en face.
Avec sale comble en face. Et donc, on est très très loin là aussi d'une. De l'idéologie dominante où les femmes, finalement, elles ont une sexualité seulement avec leur mari, et c'est seulement dans ce cadre-là qu'elles s'épanouissent. Là, on n'est pas du tout dans, ça. Et Angela Davis continue en disant
c'est drôle d'ailleurs là-dessus que Ma Rainey apparaisse comme la mère du blues, parce qu'elle est la mère du blues, mais par contre, dans ses chansons, elle n'est pas du tout mère.
Non, elle n'est pas du tout. Et d'ailleurs, la thématique de maternité apparaît très peu dans la chanson. Ouais. C'est pas. Justement, Angela Davis dit que ce n'est pas tellement un rejet en soi de la maternité, mais plutôt une contestation, là aussi, d'ordre social, qui ne passe pas, pour les Noires américaines, en fait, par le fait de faire des enfants et d'être épanouies au foyer. Puisque, finalement, elles n'ont pas les mêmes réalités sociales que les Blanches. Et du coup, ça passe. Voilà, leur épanouissement passe pas du tout par là. Et d'ailleurs, elle fait un lien en disant que finalement, le bonheur évoqué par les blueswomen, finalement, est souvent associé à la sexualité, au plaisir sexuel. Mm-hmm. Voilà. Sur la thématique, sur les thématiques là encore de la vie conjugale, etc. Angela Davis note à quel point en fait la thématique de des violences conjugales est abordée. On a souvent d'ailleurs reproché aux blueswomen d'être misogynes, d'accepter en fait la violence des hommes. Et d'être complètement sadomasochiste, Angela Davis en fait essaye de pallier, en tout cas de faire
elle lit autrement
effectivement ces critiques là et tout simplement essaye de dire que le fait de nommer justement un problème qui était d'ordre privé en le chantant, en l'exprimant, va devenir une question publique. Et à l'époque, à ce moment-là, où il n'y a aucune littérature, finalement, sur les violences conjugales. Et les Blanches ne sont pas du tout emparées de cette question, considérant qu'elle était, là encore, un sujet tabou et privé.
Et puis après, c'est aussi... elle dit aussi qu'il y a une forme de subtilité, dans la mesure où c'est aussi énoncer des paradoxes, parfois. Paradoxes ou des injonctions paradoxales dans les désirs, dans l'expression de ces désirs, et aussi un décalage, et c'est là où elle prend, moi je trouve, en compte vraiment la musique comme musique et pas juste comme un texte comme un autre qu'on lirait dans un bouquin, c'est qu'il y a ce qui est énoncé, puis il y a la façon dont c'est énoncé, et elle parle de l'ironie à la fois des paroles et de la façon d'énoncer ces paroles.
Oui, effectivement. Ouais.
Et que finalement, la façon dont ces auteurs-là, ces chanteuses-là font signe, vers quelque chose, c'est vers une critique, c'est pas juste le mot en lui-même, quoi. C'est aussi un humour qui se dégage de la façon de prononcer un mot, par exemple.
Oui, finalement, elle dit qu'il n'y a pas. Finalement, le blues est fait de multiples strates, de significations, et que si on a une lecture littérale, alors on n'en saisira rien. Elle évoque justement l'héritage des chansons de travail, j'avais perdu le mot, où effectivement il fallait utiliser la satire, la parodie, et faire en sorte que les maîtres, en l'occurrence, qui étaient visés, ne comprennent pas en fait les chansons. Donc effectivement, elle parle de ça, et là on va écouter un extrait de Yassine Dididou de Bessie Smith,
qui traite donc des violences masculines,
conjugales,
mais avec toujours cette forme de flou dont on vient de parler.
Ouais.
While I don't claim to know it all, bonsoir. Vous êtes toujours sur FPP 106.3 FM avec les Langues de Fronde. On vous parle aujourd'hui du livre Blues Legacies de Angela Davis. Et nous venons d'écouter...
On vient d'écouter Yes, Indeed, It Do de Bessie Smith, qui était une chanson qui aborde la question des violences conjugales. Et
Clave, peut dire deux mots du texte.
Exactement, on va nous donner...
Alors, Angela Davis le présente, elle, comme une des... Une des chansons dont l'écoute attentive de leurs interprétations, donc de cette interprétation, révèle à l'auditeur qu'elles expriment des critiques implicites des mauvais traitements masculins. Dans Yes, Indeed, He Do de Smith, l'interprétation musicale sarcastique des paroles transforme des remarques sur un amant infidèle, maltraitant et profiteur en une critique cinglante de la violence masculine. Et donc une partie du texte est « Est-il réel comme les étoiles au-dessus de moi? Quel genre d'imbécile tu es? Il passe ses nuits hors de la maison plus de 6 fois par semaine. Non, je sais que je suis sa Sheba et je sais qu'il est mon chèque. Et quand je lui demande où il était, il attrape une chaise. Puis il me tabasse en disant « C'est juste une petite léchouille d'amour, chérie. » Un peu plus loin. « S'il me bat ou me maltraite, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Je n'ai aucun travail à faire sauf laver ses vêtements, repriser ses chaussettes, repasser ses pantalons et récurer le sol de la cuisine. » Je n'échangerai pas 1 million contre mon doux Daddy Jim et je ne donnerai pas 1 centime pour un autre homme comme lui. Du coup, avec tous ces paradoxes...
Ouais. Et d'ailleurs, dans cette chanson, elle parle d'ailleurs aussi de l'abrutissement du travail ménager, évidemment avec ironie, en disant qu'elle n'a rien à faire, si ce n'est que repriser ses chaussettes et laver le sol. Enfin, voilà,
D'où l'importance du quotidien aussi dans les paroles, oui, dans la description d'une réalité quand même.
Oui, effectivement, il y a toute cette dimension-là.
Alors, moi, quand on a déchiré le livre, j'ai tombé...
T'as pris quel chapitre, Théo ?
Je suis tombée, on s'est distribué, je suis tombée sur le chapitre en fait, qui est vraiment bien dans la suite, parce que ça parle aussi beaucoup, le chapitre 2 donc, parle aussi beaucoup des relations conjugales, des relations amoureuses, mais ça intéresse, Angela Davis, dans ce chapitre, s'intéresse plutôt aux relations entre femmes. Donc, que ce soit rivale, petites amies, conseillères. Donc, c'est le titre du chapitre, Mama's Got the Blues, rivale, petites amies et conseillères. Et voilà, donc Angela Davis va vraiment nous présenter aussi, un petit peu, va décortiquer aussi toutes les chansons où il y a vraiment, Donc, à travers les relations conjugales, ça tourne quand même beaucoup autour des relations hétérosexuelles classiques du couple, enfin, je dirais classiques, avec toujours cette notion de... comme on en a déjà parlé, où les femmes montrent bien qu'elles sont pas, elles cachent rien, elles montrent beaucoup toutes les problèmes qu'elles ont, que leur mari est infidèle, qu'elles se sont fait tromper, et donc du coup les rivalités qu'il y a, parce que si elles se sont fait tromper, c'est qu'il y a aussi une autre meuf qui est venue aussi, bref. Donc ça parle de tout ça. Elle aborde différents thèmes, qui peut y avoir, et notamment la première partie, c'est un peu vraiment sur la violence, donc à quel point aussi les femmes entre elles peuvent être violentes, en tout cas dans leurs mots. Elle n'hésite pas, Ma Rainey, présenter des personnages qui peuvent être de femmes puissantes, indépendantes financièrement, combattantes et bagarreuses, comme on peut avoir dans le titre Wrath and Tumble Blues. Et voilà, avec vraiment des femmes aussi qui peuvent menacée de tabasser l'autre femme qui lui a piqué son mari. Enfin, donc on a vraiment ça. Et après, il y a toute une partie sur la violence. Et après, ça part... Ici, Angela Davis, à propos de la violence, fait quand même un petit aparté en disant que, attention, ça ne veut pas dire que ces femmes prônent la violence, parce qu'il y a une grande différence entre... culturellement, qu'est-ce que ça veut dire la représentation, il y a une différence entre la représentation culturelle de la violence et sa réalité matérielle. Donc, c'est pas que ces femmes sont non plus forcément en vrai très violentes.
Et parfois, elle en parle aussi comme autodéfense. Là, pas tant par rapport à d'autres femmes qui seraient venues piquer leur mec, mais plutôt face aux hommes violents. Elle dit, et à un moment, il y a des chansons aussi sur le procès, sur la chaise électrique, en disant, moi, je veux bien aller mourir. En fait, oui, je l'ai tué, mais... En fait, je me suis défendue, et c'est aussi une forme de violence, parce que parfois elles décrivent assez crûment quand même la façon dont elles ont tué leur mari.
Oui, et je rebondis aussi sur ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un usage de la violence, en fait, mais qui vient contrebalancer l'idée que les femmes seraient démunies et désespérées. Et du coup, elle se réapproprie finalement des situations qui sont quand même parfois très glauques en effectivement se défendant, notamment contre l'armerie. Bon, là, en l'occurrence, ce sont des petites amies, mais on a des chansons, effectivement, comme le disait là, qui évoquent le fait qu'elles vont les buter, quoi.
Et un petit rappel, quand même, que Angela Davis, un des thèmes qui l'occupe encore aujourd'hui, c'est les prisons aux États-Unis et la situation des personnes qui sont dans ces prisons. Il y a 2 ans, on avait aussi pas mal parlé d'Angela Davis à ce sujet-là. Et du pourcentage de personnes noires ou en tout cas racisées dans les prisons aux États-Unis et les deux types de classes sociales qui y sont, et justement du fait que, et puis en France récemment il y avait toute une affaire, alors je sais plus comment elle s'appelle, cette femme qui avait tué son mari justement pour légitime défense, Jacqueline Sauvage, oui. Et qui finalement avait été comment on dit,
gracié.
Mais voilà, il y avait cette question de est-ce que c'était de la défense, est-ce que ça parle aujourd'hui, quoi, 100 ans plus tard.
Voilà, donc il y a cette histoire, il y a cette partie de violence, mais après, elle essaye surtout, Angela Davis, aussi de vraiment bien montrer en quoi, dans le fait de raconter ces histoires de violence, de jalousie, il y a aussi toute une thématique de partage d'expérience et aussi de rivalité, solidarité. D'ailleurs, il peut y avoir les deux en même temps. D'ailleurs, on va écouter...
Elle aime bien les paradoxes.
Elle aime bien les paradoxes. On va écouter My Man Blues, qui est écrit par Bessie Smith, mais composé avec Clara Smith, qui sont en fait rivales, chanteuses rivales, enfin musicales. C'est comme ça qu'elle a marqué Angela Davis. Et à la fin de la chanson, en fait, ils se créent des liens de solidarité autour d'un homme qu'elles aiment toutes les deux. Voilà, sur Langue de Fronde, on n'a malheureusement pas pu finir pour question de temps la chanson. Et en fait, juste à la fin, c'est assez intéressant. Donc, elles disent c'est bon, c'est mon homme, non, c'est le mien, et tu me l'as piqué. À la fin, elle dit bon, bah, en fait, on va peut-être devoir coopérer parce qu'en fait, il n'y a pas moyen, quoi. On ne va pas juste se tirer les cheveux comme ça. Et au final, ben, c'est ça. Elles finissent comme ça par dire ok, ça marche, on va coopérer. Let's cooperate.
Qu'est-ce que tu en penses? Ça me va. Ça me va aussi. Très bien, alors.
Et voilà, donc c'était un exemple de solidarité qu'on pouvait avoir. Et donc, dans ce partage d'excellence, apparemment, c'est quand même, je pense, ça a l'air assez...
drôle.
C'est assez drôle, mais c'est pas toutes les chansons qui sont comme ça, quoi. C'est un peu un exemple pas forcément représentatif. Après, il y a... Angela Davis insiste beaucoup dans la question solidarité... entre femmes, que c'est sur la forme que prennent ces chansons. Et là, ça reprend un peu, les chansons reprennent une structure traditionnelle de la musique d'Afrique de l'Ouest avec avec des questions-réponses. C'est-à-dire que les chanteuses vont interpeller les femmes du public et leur disent « voici mon expérience », qui d'ailleurs n'est pas forcément leur expérience propre, mais est une gamme d'expériences de femmes de la classe populaire ou laborieuse, comme dit Angela Davis, peuvent avoir ressenti et dire bah, « qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord ?» Et en fait, ça va permettre aux autres femmes qui sont dans le public de dire... de donner leur point de vue, de participer. C'est pas forcément aussi que des oui, ça peut être ambigu, mais et ça fait vraiment un partage et une solidarité. Et c'est aussi donc une façon de donner des conseils, dans le genre touche pas à mon mec, ou genre si t'as un mec bien, et ben garde-le pour toi et le révèle à personne. Donc c'est il y a une chanson, c'est keep it to yourself. Donc c'est vraiment ça, parce qu'il y a pas mal de genre trash-le. Si c'est un séducteur trop pourri, genre n'y touche pas, ne te mets pas avec lui, mais aussi genre garde bien caché ton mec trop cool, parce que
il en a pas beaucoup.
Et puis voilà, et puis comme ça évite les histoires entre nous, quoi. Et voilà, donc vraiment les images fortes d'Angela Davis, c'est le privé et politique qu'on retrouve encore, qui traverse, je pense, le livre, et à travers justement ce partage d'expériences avec les autres femmes, et qui crée au moment du concert, en fait, une solidarité entre les femmes.
Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est intéressant de dire, c'est que le blues a souvent été critiqué comme une musique individuelle et très individualiste de la personne, de ses sentiments, etc. Mais là, on voit bien que finalement, l'usage, en fait, il est collectif, il fait écho en fait à des expériences sociales d'une communauté, quoi.
Ouais.
Ce qui va avec ce que tu dis, c'est qu'aussi par rapport aux spirituals dont on a écouté, c'est qu'aussi là c'est vraiment le début d'une personne seule sur scène, enfin avec un orchestre derrière, mais qui va chanter aussi comme individu, artiste, et pas un chœur, pas juste une forme chorale.
Voilà, donc c'était. Il y a d'autres choses encore à dire sur ce chapitre, mais je pense qu'on a à peu près fait l'essentiel. On voudrait passer maintenant, Gab n'étant pas parmi nous, elle va nous parler très rapidement de son petit chapitre, enfin son chapitre. voilà.
Sur le voyage.
Sur le voyage.
Donc il y a un stéréotype dans le blues selon lequel quand un homme a le blues, il prend un train, tandis que quand une femme a le blues, elle s'effondre sur place et elle pleure. Du coup, dans le blues de femme, la possibilité de voyager pour une femme apparaît comme un marqueur d'autonomie, la possibilité de dépasser la passivité et la résignation, d'exercer un contrôle sur ses conditions de vie et sur sa vie sexuelle. Du coup, le blues féminin permet de contester les conditions concrètes, réelles, de vie des femmes et leur place dans la communauté et dans la société en général. C'est par exemple le cas dans la musique de Ma Rainey, puisque à travers sa mise en scène, sur scène, en tant que voyageuse avec sa valise, les femmes qui l'écoutent participent par procuration à une expérience du voyage. Du coup, on va écouter tout de suite une chanson de Ma Rainey qui s'appelle « Runaway Blues ». C'est l'histoire d'une femme qui dit qu'elle s'enfuira demain avec l'espoir qu'un jour le soleil brillera dans son jardin. Elle dit « J'ai mes amis avec moi ». Je vais déambuler toute la nuit dans les rues. Il s'agit d'une fuite vers, avec plein d'espoir vers une autre vie. Et c'est une fuite qui est basée sur le refus de subir des violences physiques et sexuelles. Donc c'est l'histoire d'une femme qui devient rebelle et vagabonde. On écoute tout de suite Runaway Blues.
I got my but I had to wait so long.
Chanson, c'est justement voilà, comment le voyage qui, pendant la période esclavagiste, était juste le fait de fuir l'esclavage, là, est une possibilité pour les...
C'est Ma Rainey. Mais...
Oui, Ma Rainey. Et donc, pas cette chanson en particulier, mais c'est comment, à un moment, les Noirs, à cette époque-là, peuvent voyager, et pour les femmes, c'est pas exactement pareil, mais en tout cas, les Blues Women prennent ce droit-là, et voilà, en processus... Angela Davis parle du personnage du hobo dans le blues, donc du vagabond qui erre sur les routes ou qui justement voyage entre une errance et un voyage. En tout cas, elle parle de processus de transformation du souhait en réalité. Le voyage était individualisé, sécularisé et sexualisé, et c'est ce que participent à faire les blues women. Et le voyage, parmi d'autres choses, c'est aussi pour enchaîner avec le prochain chapitre dont tu vas nous parler, Léa, une forme de contestation sociale qui émerge dans ces musiques-là.
Ouais, et ça fait vraiment le lien avec tout ce qui s'est dit dans cette émission sur l'articulation entre l'individuel, les textes à la première personne et qui parlent vraiment de situations du quotidien et qui sont écrites soit par elle, soit par d'autres, mais qui en tout cas sont portées individuellement sur scène avec des blessures plutôt collectives et qui participent à la construction d'une forme de mémoire collective quoi, de la communauté noire américaine. Et du coup, dans le chapitre donc 4, qui s'appelle « Bessie Smith et Gertrude Ma Rainey et les politiques de la contestation blues », Angela Davis, elle part d'une analyse de deux auteurs universitaires blancs, qu'elle qualifie aussi de paternalistes, donc, pour les citer, Samuel Charters et Paul Oliver, qui en fait, eux, considèrent qu'en fait, il n'y a pas de contestation, en tout cas, il n'y a pas de trace de contestation sociale dans le blues, et qu'il s'agit seulement de complaintes et de plaintes individuelles, quoi. Et elle prend vraiment le contre-pied de ces analyses, elle se plonge dans les textes de ces deux artistes pour montrer comment, justement, le blues entretient des relations très fortes avec des formes de contestation. Alors, bien sûr, il n'y a pas un appel à la lutte organisée et à un engagement politique structuré, mais à l'époque, en 1920, c'est un peu prématuré aussi pour le faire. Mais que par contre, il y a dans le fait de dénoncer les conditions sociales oppressantes de la communauté, que ce soit à travers ce dont on a parlé, mais aussi donc la question de logement et de catastrophes naturelles aussi que vivent différemment parce que dans des situations de vie complètement inégalitaires et injustes, les Blancs et les Noirs aux États-Unis, en décrivant ces situations oppressantes, elle fabrique une sorte de conscience sociale, quoi, ou en tout cas, elle participe à révéler cette conscience qui est en train d'émerger à l'époque. Elle dit donc ça construit des blessures, les blessures collectives de la communauté, mais aussi ses chansons... évoque la détermination pour dépasser quoi, ces blessures-là. Et dans une chanson qui s'appelle « Backwater Blues » de Bessie Smith, elle raconte une tragique histoire quoi, qui a plongé la communauté noire du Sud dans une situation désastreuse pour cause d'inondation. Et en fait, elle parle des souffrances qu'a rencontrées la communauté. Et elle explique qu'en fait, le fait de décrire donc dans cette chanson les situations et les différences de traitement entre victimes blanches et victimes noires de ces inondations, puis en fait des crues du Mississippi en 1927, En décrivant tout ça, elle, ça forme comme un catalyseur qui va en fait fédérer la communauté autour de justement de cet événement qui, loin de concerner des personnes et des individus, concerne une communauté tout entière. Du coup, on peut peut-être commencer à écouter la chanson et je voulais juste citer Angela Davis pour terminer cette émission parce que le temps nous presse. Et donc, on va commencer à l'écouter. Et puis, je ne sais pas si vous vouliez rebondir.
On se dit surtout au revoir, on n'a pas tout à fait le temps. Et on se revoit bientôt dans un mois pour continuer à parler de ce livre.
En tout cas, moi, pour moi, ce livre, c'est vraiment Angela Davis, qui est une femme noire aux États-Unis et qui aborde à la fois des voix très singulières au sens propre, c'est des voix, et l'élaboration de modalités collectives d'une conscience noire. Et c'est quand même la force de ce livre.
Et donc, pour citer Angela Davis, les chansons de Gertrude Rennie et Bessie Smith peuvent être précisément perçues comme préparant historiquement la contestation et l'engagement politique qui allait secouer les États-Unis. Leurs chansons vont donc bien au-delà de la complainte mélancolique. Elles prennent en compte les conditions sociales de l'exploitation de classe, le racisme, la domination masculine, depuis la perspective sensible et complexe des femmes noires. Si elles ne créent peut-être pas le lien direct avec un activisme politique, la conscience induite par ces chansons rend possible des prises de position militantes. Bonne écoute et à très bientôt.
On some high.